Je voudrais bien faire la valise seulement pour me tirer d'ici. Ben, il faut que je me marie. C'est pas moi qui ai inventé les règles. Moi, les règles, je leur pisse dessus.
Les 400 coups. L'émission ciné des 400 coups.
De 17h30 à 18h.
Tous les premiers mercredis du mois sur Radio Campus.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les 400 coups, l'émission des cinémas Les 400 coups. Bienvenue sur les ondes de Radio Campus Angers sur le 103 FM. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette saison 2 des 400 coups, l'émission. Alors c'est la rentrée et on vous cache pas qu'elle s'annonce chargée et complètement incroyable. Et pour commencer, un petit récap du box-office de l'été.
Et oui, le plus gros succès de cet été, c'est Un Petit Truc en Plus qui a cumulé plus de 10 millions d'entrées. Vice Versa 2, on l'attendait tous, il a comptabilisé plus de 8 millions d'entrées, de même pour notre très cher conte de Pierre, Monté, Cristo, Niné, et cela à l'heure où nous enregistrons l'émission.
Alors, qu'est-ce qui nous attend, Cécile, au sommaire de cette première émission de la saison?
Nous parlerons bien évidemment de notre estival de cet été avec une interview de Boris Lochkin qui est venu au 400 coups le 26 août dernier pour nous présenter son dernier long métrage, L'Histoire de Suleiman.
Et en deuxième partie d'émission, toute l'actu, tous les événements, toutes les sorties ciné des 400 coups, bref, les immanquables de ce mois de septembre. Attention à vos agendas.
Alors nous avons donc eu la chance de recevoir Boris Lochkin qui est venu nous présenter L'Histoire de Suleiman, son dernier film, une ITV exclusive réalisée au Cercle Rouge durant la 4e édition de l'estival Premier Plan. Boris Lochkin sur les très bonnes ondes de Radio Campus Angers, extrait. Bonjour Boris, vous êtes un habitué d'Angers et des 400 coups. La dernière fois c'était en avril dernier, vous aviez présenté votre film Camille, un très bel hommage à Camille Lepage. Très heureuse de vous avoir de nouveau avec nous pour nous présenter L'Histoire de Suleiman, votre troisième long métrage qui a reçu le prix du meilleur acteur et le prix du jury dans la catégorie Un certain regard au dernier festival de Cannes. Pour commencer, pouvez-vous nous raconter un petit peu l'histoire du film et comment vous êtes venu l'idée du scénario?
Le film raconte deux jours de la vie de Suleiman. Suleiman, c'est un jeune Guinéen arrivé en France illégalement, qui n'a pas de papier, qui travaille comme livreur. Et le film raconte les deux jours qui précèdent son entretien de demande d'asile. Donc pendant ces deux jours, il se prépare pour cet entretien, il fait ses livraisons et il se débat dans un certain nombre de problèmes qui s'accumulent au-dessus de sa tête.
Comment vous êtes venu un petit peu l'idée du scénario? Est-ce qu'il y avait une idée à l'origine, quelqu'un?
C'est pas nouveau que je travaille sur les questions de migration. Mon premier film qui s'appelait Hope, hein, avec lequel j'étais venu déjà à Angers puisqu'il avait reçu le prix du public au festival Premier Plan. Dans ce premier film, je racontais le voyage de deux Africains, un Camerounais et une Nigériane, hein, qui se rencontraient sur la route de l'Europe. Et souvent, après ce film, les gens me disaient « Mais pourquoi ?» Quand je faisais des débats, hein, les gens me disaient « Mais pourquoi vous faites pas la suite? Pourquoi vous racontez pas ce qui leur arrive en Europe ?» Voilà. Et puis, c'était pas trop mon truc parce que moi, j'ai toujours fait des films très loin, en fait. J'ai fait des films au Vietnam, j'ai fait des films au Maroc, j'ai fait des films en République centrafricaine. Et l'idée de tourner au coin de chez moi, a priori, comme ça, c'était pas mon truc. Et puis, bon, petit, voilà, petit à petit, on change. Et je me suis, commencé à m'intéresser à l'idée de faire ça. Et donc, je réfléchissais vraiment à un film en début 2020 autour de mineurs sans papier, de ce qu'on appelle les mineurs isolés présents à Paris. Et puis là, le confinement arrive et le confinement, en fait, change un petit peu tout. D'une part, tout ce que j'avais commencé à écrire, toutes mes recherches, j'avais plus envie de rien. Ça, c'est ce qui est l'effet Covid, hein. Ça fait ça à pas mal de gens. Voilà, tout d'un coup, les choses glissaient comme du sable entre mes doigts. Et puis l'autre chose qui se passe aussi, c'est que quand arrive le confinement, les rues de Paris se vident et tout d'un coup, les livreurs, on voit plus qu'eux. Ils sont comme une évidence, ils sont là. Eux qui sont des invisibles, ils prennent toute la place. Et je me dis, il y a évidemment là un sujet pour moi. Ces livreurs à vélo, sans papier, dans Paris, c'est à la fois thématiquement quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui raconte quelque chose de très contemporain, quelque chose vraiment de la société d'aujourd'hui. Et en même temps, cinématographiquement, ces hommes à vélo comme ça, c'est une promesse de mouvement, d'énergie. Ça, voilà, c'est un film où on va bouger tout le temps. Je sais pas si ça va être Fast and Furious, mais quelque chose comme ça.
Beaucoup des acteurs du film sont des non-professionnels, notamment Suleiman, le personnage principal. Pourquoi avoir fait ce choix et comment s'est déroulé le casting?
Moi, j'aime beaucoup travailler avec les non-professionnels, avec les non-acteurs, même avec des gens qui n'ont jamais eu ce genre d'expérience. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait appel à non professionnel, généralement c'est quelqu'un qu'on va choisir parce que son profil réel, c'est-à-dire ce qu'il est dans la vie, ressemble à ce que le personnage est dans le film. Donc par exemple dans le film, le titulaire de compte de Souleymane, celui qui sous-loue son compte, bah, c'est quelqu'un qui avait vraiment eu cette expérience dans la vie. La personne qui lui fait répéter pour l'asile, c'est aussi quelqu'un qui a déjà aidé ses compatriotes à faire ça. On prend des gens qui ressemblent. Et en fait pour moi, qui ne suis pas un Africain, qui ne suis pas un livreur, qui n'ai jamais fait le voyage de l'Afrique vers l'Europe à pied, donc qui suis étranger à ces réalités-là, j'ai besoin dans le film d'avoir des gens qui eux savent vraiment de quoi on parle, qui eux sont capables d'incarner ce dont on parle et qui vont amener en fait au film toute leur richesse. C'est vraiment la différence entre, si vous prenez un acteur, un professionnel du jeu, c'est quelqu'un dont vous pariez sur ses qualités de jeu. Si vous prenez un non-professionnel, vous pariez en fait sur la richesse de réel qu'il amène dans le film. Et c'est sur ça qu'on parie.
Alors vous avez réalisé deux documentaires auparavant, en 2001 « Ceux qui restent » et en 2005 « Les Amérantes ». Quel rapport entretenez-vous avec le cinéma documentaire et à quel point ce genre se rapproche-t-il dans l'histoire de Souleymane ?
Alors beaucoup de gens quand ils voient le film se disent « Ah là là, ça ressemble presque à un documentaire ». Et en même temps, c'est pas du tout un documentaire, c'est pas du tout fait comme un documentaire. Tous les gens qui sont dans le film jouent. Même s'ils n'étaient pas acteurs avant, bah, ils jouent. Abou Sangaré qui joue Souleymane, il n'était pas livreur, donc c'est nous qui l'avons mis sur un vélo pour faire la livraison. Il n'avait jamais demandé l'asile, donc c'est nous qui le mettons dans cette salle de l'OFPRA où il demande l'asile. De même, voilà, il n'y a personne qu'on a filmé dans sa vie. Donc c'est vraiment un film qui est fait comme une fiction, on peut dire. Mais c'est vrai qu'il y a une proximité avec le documentaire. Ce qui m'intéresse, moi, c'est vrai que j'ai toujours envie, quand je commence un film, de raconter une réalité. Même quand je fais un film sur Camille Lepage, alors Camille Lepage, oui, c'est une personne, mais j'ai envie de raconter le métier de photojournaliste. Et je commence à faire des recherches. Je commence à regarder comment ça marche, les photojournalistes, comment elles travaillent, comment elles vendent leurs photos, comment elles éditent leurs photos, etc. Donc il y a toujours dans mes films une recherche documentaire. Dans celui-là, il y a évidemment une recherche documentaire que j'ai faite au début, avant même d'écrire le scénario. Avant d'écrire le scénario, ben, je suis allé rencontrer des livreurs dans la rue, et ceux qui ont accepté de me parler, ils m'ont raconté plein de choses sur leur métier. Comment ils travaillent, comment ils sous-louent un compte parce qu'ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas le droit de travailler, comment ils se sont fait voler leur vélo un jour, comment ils ont trouvé une chambre pour habiter, toutes les choses de leur vie. Et c'est cette matière documentaire qui a été le point de départ de l'écriture du scénario. Une fois qu'on a cette matière documentaire, ensuite, on réfléchit, on se dit, bon, maintenant, quel film on veut faire? Quelle histoire on veut raconter? Et c'est là que le travail vraiment de scénario commence. Et ensuite, je dirais qu'en bout de chaîne de mon travail, il y a de nouveau une dimension documentaire qui est que moi, j'ai envie que... Je garde en fait peut-être, on peut dire, pardon, je cherche la meilleure manière de le dire, mais je garde en fait toujours dans mes tournages de fiction une forme de nostalgie du documentaire. J'ai l'impression que le documentaire, c'est toujours mieux. Parce que le documentaire, vous allumez la caméra et le réel, il est là, il est donné. Les décors sont vrais, les gens sont vrais. Il y a des millions de figurants à disposition et tous gratuits. Et j'ai toujours l'impression que... J'ai toujours la sorte de nostalgie de ça dans la fiction, parce que dans la fiction on doit tout recréer, on s'empare de décors qui deviennent justement des décors et pas simplement des lieux, on fait venir des gens qui donc sont des acteurs et qu'il faut rendre justes, leur justesse elle n'est pas donnée d'emblée, on leur fait dire des choses qui doivent être aussi justes, et la vérité de ce qu'ils disent n'est pas non plus donnée d'emblée. Donc c'est vrai que j'ai toujours une sorte de nostalgie du documentaire. Et alors pour guérir un peu ma nostalgie du documentaire, ce que je fais c'est que j'essaye de tourner des fictions en... Alors ça ressemblera jamais à un tournage de documentaire, mais j'essaye par exemple d'alléger au maximum mes équipes. Et là dans le film, alors il y a des fois on est très nombreux, par exemple quand on tourne dans le centre d'hébergement d'urgence, on a 80 figurants, on a une équipe électro, une équipe machino, une équipe déco, donc je sais pas, là des jours comme ça on est 120-130. Mais il y a des jours en revanche où on est 3-4. Et ça, j'adore. Ça, j'adore. Donc ça, c'est quelque chose que j'impose, par exemple. Je rends très malheureux mon pauvre chef-op qui va être obligé de faire l'image tout seul. Je rends très malheureux mon pauvre ingénieur du son qui va être obligé de prendre de faire la perche et en même temps de faire le prémix en direct tout seul. Ça donne le sentiment aux gens qu'on est en train de tourner de manière un peu spéciale et que ça a un sens et qu'il y a une raison pour laquelle on fait comme ça. Et c'est excitant pour tout le monde, en fait. Et c'est vrai que c'est ça qui peut être, à la fin, donne ce côté, cet aspect un peu documentaire au film où on a l'impression d'être vraiment dans le réel. Et si c'est le cas, pour moi, c'est réussi. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être vraiment dans le réel parce que quand on tourne très léger, on peut ne pas arrêter la vie autour, en fait. On va pas bloquer les rues, on va pas... Donc les voitures continuent à passer, on est dans... les métros passent normalement, et on rentre dans les métros où il y a des vrais gens qui vont vraiment là où ils ont besoin d'aller. Dans la rue, les gens, voilà, on est au milieu de la foule, et le fait de ne pas arrêter la vie, ça, je trouve ça génial, en fait. Parce que ce qui est beau dans la ville, c'est le mouvement partout. Et ce que d'emblée, je savais que je voulais dans le film par-dessus tout, en choisissant de faire l'histoire de quelqu'un qui est sur son vélo, l'histoire d'un livreur à vélo, c'est d'avoir une sorte d'immersion dans la ville où on est tout le temps dans cette espèce de bordel où ça fourmille de partout. On est au milieu du chaudron, quoi, ça bouillonne, il y a plein de bruit, et de surtout pas couper la vie autour, parce que c'est la vie qui donne le cinéma.
Vous avez un petit peu répondu à la question et ça se rejoint, mais c'est vrai que l'histoire elle se déroule seulement en 2 jours, donc c'est très condensé, c'est un vrai compte à rebours pour le personnage. Donc pourquoi ce choix? Est-ce que ça a impliqué quelque chose en termes de tournage, en termes d'organisation? Donc il y avait très peu de personnes sur le tournage, comme vous disiez.
Alors, c'est un choix de scénario que j'ai fait vraiment très en amont, c'est-à-dire dès que j'ai décidé de faire un film sur ce sujet, je savais que ça allait être un film très urbain dans la ville, comme j'ai déjà dit, et puis je savais aussi que ça allait être un film sur une durée courte, 48 heures, les 2 jours qui précèdent, avec une sorte de compte à rebours, on sait que l'entretien se rapproche. Dès le début du film, on sait que le film conduit vers l'entretien, et ensuite on sent que le temps s'en rapproche. Alors il y a plusieurs raisons à ce choix. La première raison, je dirais, c'est comme vous le dites bien, c'est l'urgence. Créer une urgence, donner un côté un peu comme un thriller, que même si on est dans un film social, on soit pas dans une sorte de chronique un peu molle, qui s'étire un petit peu en longueur, avec des moments un peu doux amers, non, on est dans un film un peu impitoyable où ça avance, chaque scène avance, ça avance, et on ne s'arrête jamais jusqu'à la dernière scène. Et l'autre chose que permet la durée courte, on va jamais deux fois, il y a une exception au film, mais on va jamais deux fois dans le même endroit. Il y a une exception, c'est qu'on va deux fois à la boutique d'Emmanuel. Évidemment, si on avait fait le film sur 3 semaines, on serait allé plein de fois dans le centre d'hébergement d'urgence, on serait allé plein de fois dans les mêmes restaurants où il prend les commandes, ou dans les mêmes rues où il attend, etc. Or là, le fait qu'on soit chaque fois dans un lieu différent, ça fait que chaque scène, à la fois, elle a un enjeu dramatique fort, c'est-à-dire on se demande qu'est-ce qui va arriver au personnage, et en même temps, chaque scène, pour le spectateur, elle est une découverte.
Alors du coup, vous avez fait le Vietnam, le Maroc, l'Afrique. Le voyage fait depuis le début partie de votre désir de cinéma, et donc comme vous le disiez au début de l'interview, c'est en France que se déroule l'intrigue, et donc à Paris. Vous en avez un petit peu parlé de pourquoi avoir choisi Paris, mais peut-on dire que la ville est presque un personnage à part entière de l'histoire?
Ah oui, c'est clair, et ça aussi c'était présent dès le début. On savait que c'est un film sur 2 jours, et dès le début on savait que c'était un film dans Paris. Ça va avec le vélo, en fait, on sait que c'est un livreur qui va circuler partout dans Paris et qui va nous conduire d'un milieu à un autre milieu, en fait. Une fois il livre un papy tout seul dans sa chambre, et puis une autre fois il livre des policiers, et une autre fois, voilà. Chaque situation de livraison, elle nous emmène dans un lieu différent, dans un milieu social différent. Et c'était très important, ça, d'emblée dans le projet, qu'on ait cette circulation, et très important, encore une fois, qu'on soit dans l'énergie de Paris. Donc on est dans le bordel de la circulation sur son vélo, mais on est aussi dans la frénésie des transports, que ce soit le métro, le RER, et... ouais, vraiment, j'avais envie qu'on soit beaucoup dans Paris, et qu'on soit dans un Paris un peu différent de ce qu'on voit souvent au cinéma, où je reconnais pas forcément ma ville. Et là, j'avais l'impression qu'on plonge dans un Paris très brut, très bruyant, complètement à l'opposé d'un cliché touristique de Paris, mais aussi à l'opposé des clichés des films noirs sur Paris. Dans un Paris qui est une réalité comme ça très prégnante. Donc oui, c'est vrai, Paris, c'est un personnage du film.
Et alors, on a remarqué que du coup, il n'y a aucune musique dans le film. C'est assez surprenant. J'imagine que c'était également un choix de votre part. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez fait ce choix ?
La musique au cinéma, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Et surtout quand on fait le genre de film que je fais, c'est-à-dire des films, on pourrait dire, ultra réalistes, où la manière dont la musique nous décolle du réel est toujours compliquée. Donc j'ai mis de la musique dans mes 2 premiers films et je l'ai fait avec plaisir et avec bonheur, même si je trouve ça compliqué, mais plaisir et bonheur. Et là, j'avais envie d'un geste plus radical, en fait. Dès lors qu'on enlève la musique, en fait, on peut donner beaucoup de place au son. Et que quelque part, il y a une musique dans le film, la musique du film, c'est justement ce son de la ville qui est très, qui est utilisé de manière quasiment musicale. Hein, c'est une sorte de concerto pour sirènes et klaxons où on le joue, on le mixe de telle sorte que tous ces sons d'ambiance très très prégnants, on les joue presque comme une musique qui entraîne le film avec des variations très fortes. Il y a des moments quasiment de silence, au contraire des moments où le son est envahissant, presque à la limite du trop bruyant, et comme une musique en fait, avec des grandes variations, avec une grande dynamique.
Et alors nous, il y a quelque chose qu'on a trouvé assez touchant, et c'est justement ce rapport avec le personnage principal. Vous nous amenez à partager des moments assez intimes avec Soulimane, de son quotidien, et cela redimensionne un petit peu votre film. On passe plus d'un constat sociétal à vraiment quelque chose de très intime avec le personnage.
Il y a au moins un moment intime où on a accès à quelque chose de la vie intime de Soulimane. Évidemment, c'est les deux scènes, mais surtout la deuxième où il parle au téléphone avec sa copine, avec cette jeune femme restée en Guinée dont on comprend qu'elle était plus ou moins sa fiancée. Et c'était très important pour moi d'avoir ces scènes, parce que même si c'est des scènes qui ne sont pas des scènes joyeuses, ou c'est des scènes où Soulimane apprend une mauvaise nouvelle, mais malgré tout, c'est des scènes où il reprend l'initiative. Donc à la fois, c'est des scènes qui nous mettent dans son intimité, et du coup, Soulimane, c'est pas juste un livreur ou un demandeur d'asile ou un sans-papier, c'est pas une catégorie sociologique, c'est quelqu'un qui a une histoire, qui a une vie sentimentale, qui a un passé de jeune homme, qui ressent des choses, ça c'est important. Et aussi, ce qui est très important pour moi, c'est que dans la deuxième scène où il rappelle sa copine la nuit avant l'entretien, c'est une scène où, même s'il y a des choses dures pour lui, c'est une scène où il reprend l'initiative. Et dans un film où il est tout le temps un peu ballotté et où il est un peu comme une boule de flipper là, qui est renvoyée d'un côté à l'autre côté, et où il pourrait passer un peu pour une victime tout le temps, c'est très important qu'il y ait ce moment où, même si c'est quelque chose de dur, c'est un moment où il peut reprendre l'initiative et décider quelque chose et faire un acte digne.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous souhaite de belles choses pour la sortie de l'histoire de Soulimane. C'est à retrouver au 400 coups à partir du 9 octobre. Merci à vous.
Merci à vous.
L'histoire de Soulimane est donc à retrouver au 400 coups à partir du 9 octobre. Alors, allez voir l'histoire de Soulimane. Le film est touchant et Abou Sangaré, l'acteur principal, est bouleversant.
Eh bien Georges, on va se faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après sur les très bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Alors, vous venez d'écouter Obsession d'Animotion, un petit groupe de New Wave américain qui officiait dans les années 80. Vous retrouvez le morceau dans la BO du film Maxime, qui est sorti cet été, la suite de X et de Pearl, la trilogie horrifique de Tea West. Alors surtout, n'hésitez pas à regarder le clip parce qu'il vaut vraiment son pesant de cacahuètes.
En avant pour la grande éclate.
Et oui, vous l'avez reconnu, notre bio-exorciste préféré est de retour sur grand écran. Et pour la sortie du chapitre 2 avec Tim Burton toujours aux manettes, on vous a concocté une petite soirée venue de l'au-delà, spéciale Beetlejuice. Alors c'est le dimanche 8 septembre et au programme, le premier Beetlejuice à 16h, suivi de Beetlejuice en avant-première à 18h. Le film sera bien sûr à l'affiche à partir du 11 septembre.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose que nous nous retrouvions le mardi 17 septembre à 20h au 400 coups à Angers, bien évidemment, pour lancer, inaugurer la nouvelle et surtout 10e édition des Plans Cultes, une sélection spéciale anniversaire vous attend. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accompagner la projection de Battle Royale, un film réalisé en 2000 par Kenji Fukuzaku, un pamphlet sardonique et sanglant contre le système scolaire nippon, avec dans le rôle principal et dans celui d'un professeur très sadique, l'immense Takeshi Kitano. Je vous propose donc qu'on se retrouve le 17, venez nombreux et d'ici là, surtout n'oubliez pas, allez au cinéma.
Et oui, c'est le grand retour de nos plans cultes, et pas des moindres, puisque l'événement fête ses 10 ans. La soirée d'ouverture se déroulera le mardi 17 septembre à 20h et sera présentée et animée par Xavier Le Herpeur, le journaliste et critique de cinéma que vous venez d'entendre à l'instant. Au programme, présentation de la saison, suivie de la projection de Battle Royale de Kenji Fukuzaku, film japonais archiculte sorti en 2000.
Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'était bien avant Hunger Games ou Squid Game. Dans un avenir proche, chaque année, dans tous les collèges, une classe d'adolescents volontaires est sélectionnée pour participer à un jeu de massacre appelé Simulation de lutte pour la défense nationale. Alors attention, ça tabasse fort, petit warning donc, c'est interdit aux moins de 16 ans.
Et pour terminer sur nos événements immanquables, le samedi 28 septembre à 20h, nous accueillerons Michel Hazanavicius qui nous présentera son dernier film en avant-première, La plus précieuse des marchandises.
Bien évidemment, vous connaissez tous sa filmographie, à commencer par la trilogie d'humour méga méga culte OSS 117, mais pas que, c'est aussi The Artist, Le Redoutable ou encore récemment Coupé.
Alors, il revient ici dans un tout autre registre avec un film d'animation, une fable pendant la Seconde Guerre mondiale sur fond de camp de concentration. C'est touchant et poétique. Le film a été présenté au dernier Festival de Cannes en 2024 et sortira le 20 novembre prochain. En tout cas, on vous en reparle, promis, et avec, on l'espère, une interview de Michel Hazanavicius à la clé.
Comment un empire meurt-il ? S'effondre-t-il en un seul et tragique instant ? Non, non. Mais il arrive un jour où son peuple n'y croit plus.
Ne laissons pas le présent détruire l'avenir.
Mesdames et messieurs, et chers enfants de tous âges, bienvenue.
Est-ce que cette société, ce mode de vie, sont les seuls à notre disposition ?
Reprenons le pouvoir sur notre ville !
Et quand on pose ces questions, quand un dialogue s'instaure, on est déjà dans une utopie.
Le grand retour de notre très cher Coppola. Et oui, ça y est, 10 ans après son dernier long métrage, nous allons enfin pouvoir revoir un film de Coppola sur grand écran. Le projet d'une vie du réalisateur, puisqu'il lui a fallu 4 décennies pour passer de l'idée à la pellicule. Il avait en effet commencé à programmer ce projet lors du tournage d'Apocalypse Now, et c'était en 79. Megalopolis a notamment failli être totalement abandonné suite aux attentats du 11 septembre, vous comprendrez pourquoi si vous allez le voir.
Mégalopolis est une épopée romaine dans une Amérique moderne imaginaire en pleine décadence. La ville de New Rome doit absolument changer, ce qui crée un conflit majeur entre César Catalina, artiste de génie ayant le pouvoir d'arrêter le temps, et le maire archi-conservateur Franklin Cicero. Au casting, le ténébreux Adam Driver, mais également Giancarlo Esposito, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf ou encore Jason Schwartzman.
Et autre grosse sortie du mois, Emmanuelle de Aubrey Diwan, réalisatrice de Mais vous êtes fou et de L'événement, mais également scénariste de nombreux films tels que La French, Bac Nord, L'amour et les forêts ou encore le prochain Gilles Lelouch, L'amour ouf. Dans le film érotique, inspiré du roman éponyme qui a donné lieu à une ribambelle de séries, elle fait porter à l'écran la très belle Naomi Merlan, ainsi que les acteurs britanniques Naomi Watts et Jamie Campbell-Bower.
Emmanuelle est en quête d'un plaisir perdu. Elle s'envole seule à Hong Kong pour un voyage professionnel. Dans cette ville-monde sensuelle, elle multiplie les expériences et fait la rencontre de Kay, un homme qui ne cesse de lui échapper. Attention, c'est interdit aux moins de 12 ans. Le film sortira dans nos salles à partir du 25 septembre.
Et pour terminer cette émission qui dit nouvelle année scolaire, dit nouveau casting des ambassadeurs. Alors les ambassadeurs du ciné, c'est quoi, c'est qui, comment, c'est quand et surtout pourquoi?
Alors tu es lycéen ou étudiant à Angers, tu aimes le cinéma, alors deviens ambassadeur du cinéma. Rejoins un petit groupe de passionnés de ciné chargé de partager et relayer toute l'actu des 400 coups dans ton établissement et auprès de ton entourage. Tu participes à des temps de sensibilisation au cinéma et des rencontres avec des professionnels lors de séances spéciales.
Et en échange, tu bénéficies d'un tarif préférentiel aux séances des 400 coups. Alors n'hésite pas à écouter le témoignage de nos anciens ambassadeurs à retrouver en replay sur Radio Campus Angers et c'est l'émission numéro 5.
Alors si ça te tente, retrouve toutes les infos sur le site de Cinéma Parlant, sur les RS, sur leur RS et ainsi que sur ceux des 400 coups, excusez-moi. Tu as jusqu'au 29 septembre au soir pour boucler ton inscription.
Voilà, l'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés.
Bien sûr, vous retrouvez notre programmation et tous nos événements sur www.les400coups.org et sur nos réseaux sociaux. Merci Timothée à la technique. D'ici là, courez dans les salles et on se retrouve le mois prochain sur Radio Campus Angers 103 FM. À bientôt Cécile.
Salut Georges.
Les 400 coups.
Une émission à retrouver en podcast sur www.radiocampusangers.com.